Le cinéma,
beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Ça te satisfait ?
Intensément.
Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Ici, avec nous.
Le silence va plus vite à reculons. Long. Trois fois.
Cinérama. Sur Divergence FM.
Eh bien, je vous écoute.
Bonjour et bienvenue à Cinérama, émission du 13 janvier, une émission qui se déroule de 13h30 à 14h30 le mercredi, avec une rediffusion de 18h à 19h le même jour. Bonjour Martin, bonjour Boris, toi qui normalement devais être occupé au tiers-temps, finalement tu reviens cette semaine.
Oui, bonjour à tous, je reviens pour vous parler, chose courante finalement avec moi, d'un film de zombies, un film d'horreur, donc c'est REC 2, la suite du REC, réalisé par Romé Balaguero et Paco Plaza, donc ça c'était le premier, le deuxième est également réalisé par les deux comparses, et ça s'est sorti il y a une semaine je crois à peu près.
Juste après Noël pour... Non, je crois que c'est juste après Noël.
Ouais, probable, oui.
Bon, cette émission commence bien, on a tout vérifié. C'est parti. Sinon, il y aura aussi une interview d'une vie toute neuve de Ouni Lecomte qui était présente ici à Montpellier ce lundi. Le film est sorti mercredi dernier. On l'a rencontré forcément. Et puis la sortie du film de Luc Moulet, Une terre de folie. Luc Moulet qui lui était présent il y a deux mois de cela, mais on n'a aucune interview. En revanche, j'avais pu voir son film qui avait été projeté en avant-première. Quant à toi Martin.
Oui, bonjour à tous. Alors moi je vais commencer par jeter un froid dans l'émission parce que je vais bien sûr céder à la tentation de vous parler un petit peu d'Éric Rohmer, un grand du cinéma qui nous a quittés en tout début de semaine. Ce sera un petit portrait sous forme de patchwork puisque je ne me suis pas senti, et puis l'émotion m'a étreint quand il a fallu que je m'intéresse au sujet, de lui faire un vrai portrait dans les règles. Et ensuite, pour remonter un petit peu le moral et l'ambiance de cette émission, je vous parlerai d'Esther, donc un film qui est sorti également en période de Noël et qui est toujours à l'affiche. Et je vous parlerai également d'un autre film, un film danois qui s'appelle Just Another Love Story, qui est sorti mercredi dernier, qui passe actuellement au Diagonal.
Voilà, Cinérama, c'est une heure et ça commence maintenant avec Éric Rohmer.
Voilà, donc vous avez sans doute été mis au courant par les différents médias qui en ont parlé depuis lundi matin. Jour où Éric Rohmer nous a quittés. Hier soir à la télévision, vous pouviez assister à une projection, une rediffusion de Ma nuit chez Maud, un des films les plus connus de Éric Rohmer, qui avait représenté la France aux Oscars l'année de sa sortie. Moi, je vous propose d'écouter donc un petit montage fait avec différents extraits trouvés sur Internet, des vidéos de ses films, des petites interviews, sachant que Éric Rohmer était très peu, aimait pas beaucoup faire des interviews, donner des interviews, surtout pour la télévision.
Et donc, je crois qu'il n'aimait pas se montrer.
Assez peu d'images qui existent de lui. J'ai quand même réussi à trouver quelques sons. Je vous laisse écouter ça.
Voici une des rares interviews d'Éric Rohmer.
Allô, oui, c'est Éric Rohmer. Moi, vous savez, en aucune façon, je ne veux apparaître à la télévision. J'adore les mystères et le secret.
Vite, vite, mon joli bateau, il ne sera jamais trop tôt pour voguer vers San Francisco en passant par Valparaiso et gagner les Aléoutiennes en traversant les mers indiennes. Il faut que j'aille au bout du monde pour savoir si la terre est ronde.
Il a été évidemment l'un des membres fondateurs de la Nouvelle Vague, avec François Truffaut, et il est le deuxième du groupe de la Nouvelle Vague à disparaître, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Jacques Rivette. Rohmer était de ces jeunes Turcs, on a du mal à l'imaginer comme ça, puisqu'il était le plus âgé de la bande, mais on les appelait les jeunes Turcs, dans lesquels qui ont implosé les cahiers du cinéma dans les années 50, et Romer avait un goût critique extrêmement sûr. Il a dirigé d'ailleurs la revue d'une façon extraordinairement pluraliste, très forte, et qui a imposé aussi le nom des cahiers du cinéma partout à l'étranger.
Tu as déjà été amoureuse ?
Oui. De qui ? D'un garçon.
De ton âge ?
Non, d'un vieux.
De quel âge ?
12 ans. J'en avais 6, c'était très vieux pour moi.
Tu crois quand même pas que je vais te laisser avec lui toute seule ?
Bah Pierre, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je suis pas le loup, je vais pas la manger.
Peut-être est-il dangereux, mais j'ai toujours eu la fascination du danger. Je veux le rendre très, très, très amoureux.
Dans beaucoup de films, si vous voulez, les gens ne discutent pas d'idées, que ce soit des idées morales ou des idées politiques. Et lorsqu'on introduit précisément ces discussions-là, ça fait souvent très faux. Or, je pense que j'ai réussi, c'est ce dont je serais le plus content, si vous voulez, dans l'ensemble de mes films, j'ai réussi à faire que les gens discutent de moralité, quelle qu'elle soit, d'une façon absolument naturelle.
Tu vois, même si je suis avec le type le plus moche, le plus insignifiant, c'est lui que les filles remarquent, pas moi. Et c'est pas parce que j'en fais pas assez, parce que plus j'en fais, moins ça marche.
Ce sont des films de conversation. Et si on s'intéresse pas profondément à la conversation, et à ce moment-là, on est complètement rejeté du film, c'est évident.
Si je te disais que j'ai couché avec, tu me croirais ?
De toi, je croirais tout. Je sais bien que si tu dis oui, ça veut probablement dire non, mais que ça peut aussi vouloir dire oui. Tu es une petite salope sans morale.
Et c'est bien le reproche qu'on m'a fait en me disant, vos films, Manouche et Maud en particulier, est un film, cette conversation de Manouche et Maud intéressera peut-être 3000 personnes. Non, 30 000 disons. 3000 c'est peut-être un peu, c'est trop peu. En fin de compte, il y en a eu presque 300 000. Et ça a étonné tout le monde, et a commencé par moi.
Quand le film d'Arthur Penn est sorti il y a 2 ans, quand un des personnages dit « je vais voir un film de Romer », et l'autre, le policier, dit « oh, un film de Romer, c'est comme regarder de la peinture qui sèche ». Et je me suis tout de suite dit « comment est-ce que le réalisateur réagit ?»
J'ai pas vu, on me l'a dit, d'ailleurs j'ai pas très bien compris, en fait, ça veut dire c'est ennuyeux, comme c'est ça.
L'hommage de Venise à un grand réalisateur français, à la 58e Mostra, un Lion d'or, a été décerné à Éric Romer pour l'ensemble de sa carrière. Le metteur en scène, âgé de 81 ans, reste un homme audacieux.
C'est quand même des histoires assez intemporelles, c'est pas un film qu'on peut vraiment dater, c'est pas un film qui met en scène des mouvements... passionnel ou des choses comme ça, c'est vraiment des moments de vie comme ça qui peuvent se passer pour n'importe qui en fait.
Le mieux serait qu'elle se trouve un petit ami. Il est temps qu'elle connaisse le loup.
Il décrit les personnages tels qu'ils sont dans la vie, tels qu'on est dans la vie, avec toutes nos faiblesses, toutes les bêtises qu'on fait, tout ça. Je pense que justement c'est là que tient la finesse psychologique de Romer.
Si tu veux un conseil d'ami à ta place, je me fierais pas trop à ce genre de petit mec qui se balade un peu partout et qui drague une fille sur chaque plage comme ça.
Mais il est certain que les Français réussissent mieux dans les films qui sont des films de... psychologique, de... Enfin, je veux dire, la fiction, c'est la fiction, la réalité, la réalité. Je veux dire que moi, j'ai pas du tout envie, très franchement, de traiter quelque chose qui se passe maintenant. Ce qui se passe maintenant, ça se passe, je le vois. Bon, je l'apprends par les journaux. À la rigueur, je peux lire un reportage dessus. Mais faire une fiction sur quelque chose qui se passe actuellement, ça me paraît complètement aberrant. Je vois pas. Et alors, il y a un phénomène là, que je n'arrive pas très bien à saisir, c'est ça, c'est que le présent, pour moi, ne doit pas être l'objet de fiction. Le présent, c'est la réalité. Et les moyens d'information sur la réalité sont tels actuellement que je vois pas du tout en quoi la fiction peut lui apporter quelque chose.
Je comprends pas les hommes. Les vieux surtout. Ils ne font jamais rien franchement. Ni toi, ni Pierre. Sylvain lui est direct.
Éric Romer avait 89 ans.
C'est un peu comme dans tous les autres arts. Il y a le grand public et les connaisseurs. Bon, il est évident qu'une bonne œuvre doit être appréciée des connaisseurs, mais je pense, et que le grand public n'aura pas les mêmes critères que les connaisseurs, mais je pense que même si ce n'est pas conscient chez lui, il le ressent tout de même. Je pense que c'est une qualité cinématographique profonde, enfin, qui seule peut être sentie par les connaisseurs, eh bien, je pense que le public la sent, lui aussi. Et non, je pense au public parce que je pense que de toute façon, le public, mon public est assez vaste. D'ailleurs, je l'ai constaté. Et vaste, et qu'il y a un nombre très grand de gens qui aiment mes films, et d'ailleurs qui aiment mes films pour la bonne raison, d'ailleurs, pas pour la bonne raison. Et mes films ne sont pas assez ésotériques pour ne plaire qu'à quelques rares connaisseurs. Cela dit, je pense aussi qu'il y a des petites choses dans mes films, des subtilités, qui ne plairont qu'à quelques connaisseurs, c'est évident. Bon. Mais enfin, c'est pas pour eux que je fais le film.
Il faut que j'aille au bout du monde pour savoir si...
Voilà, donc un petit hommage à Éric Rohmer, un des grands réalisateurs de cinéma d'auteur français, qui nous a quittés ce lundi. Donc la petite musique qu'on entendait dans ce montage, c'est tiré du film Conte d'été avec Melville Poupeau, voilà, qui participait également à la chanson, même s'il bafouillait un petit peu sur les paroles. Voilà, donc c'est un cinéaste dont j'avoue ne pas avoir vu de film.
Eh bien,
voilà,
moi,
à part quelques petits extraits dans le cadre, dans un cadre de recherche universitaire, mais c'est à peu près tout ce que j'ai pu. J'ai même pas regardé Manu Chémaud hier soir, alors que voilà, j'aurais pu, mais bon, ça passait quand même à 1h30 du matin. Il fallait s'accrocher.
Pas exagérer non plus, quoi.
Ouais.
T'avais sans doute mieux à faire en plus.
Tout à fait, comme préparer ce petit montage. Bon, mais.
Fort bien réussi.
Voilà, je pense que ces films méritent sûr d'être vus. Toi, tu en as vu quelques-uns, Vincent.
Oui,
tu
moi
peux
j'ai
en parler un peu plus.
Bah, j'ai vu Conte d'été, j'ai vu aussi le Conte d'automne. Et peut-être un autre, non, je crois que c'est les deux seuls que j'ai vus. Moi, c'est pas du tout le cinéma que j'apprécie. Donc, quand il dit effectivement que ça ne plaira pas à tout le monde, je fais partie de ceux à qui ça plaît pas forcément. Voilà, après, c'est vrai que j'ai extrait une phrase de ton montage, c'est film de la conversation. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est extrêmement bavard. Beaucoup de psychologie. Après, je trouve que c'est très, très rigide, en fait, au niveau de la mise en scène, du cadre.
Bah, c'est souvent très, très écrit, à part certains de ces films qui sont plus dans l'improvisation, mais souvent, ces textes sont... Enfin, ces scénarios sont particulièrement écrits. C'est pas pour rien, d'ailleurs, que... qu'il a travaillé avec Lucchini à ses débuts. Je pense que ça colle assez bien avec l'univers de Rohmer. Lucchini qui est assez volubile, qui parle d'une façon très soutenue toujours. Et c'est vrai que ça illustre assez bien ce cinéma, je pense.
C'est pas dans un film de Rohmer d'ailleurs que Lucchini se retrouve à se faire administrer une fellation derrière un rocher, je crois que c'est...
Non, ça c'était dans un autre film.
C'était dans un autre avec Lucchini.
Un petit monde, une anthologie de courts-métrages, Contes Yves Moreau, ça s'appelait. Ah. Je ne sais plus le réalisateur.
D'accord.
Et par contre, c'est effectivement chez Rohmer que Lucchini a démarré. Enfin, j'ai vu un petit truc comme ça sur une chaîne de télévision lambda, où, au même titre d'ailleurs que Ariel Dombal.
Oui, tout à fait. Perceval le Gallois, il a fait démarrer Ariel Dombal. Dans son tout premier rôle, je crois qu'elle n'avait rien fait avant.
Et Ariel Dombal a rejoué après dans L'Arbre, Le Maire et la Médiathèque, que j'ai toujours pas vu. Et sinon, moi, de ce que je connaissais de Rohmer, les commentaires qu'on faisait sur lui, notamment quand moi aussi je voyais des extraits de ses films
en cours
de cinéma, c'est que c'était en fait un écrivain raté qui s'était retrouvé à faire des films, faute de mieux. Voilà. Enfin, je ne sais plus qui avait dit ça, mais c'était peut-être pas Godard, mais voilà. En tout cas, c'était quelqu'un qui était dans le milieu des cahiers du cinéma ou alors dans la Nouvelle Vague. Et puis sinon, j'ai eu le plaisir aussi de rencontrer Diane Baraté, qui a été longtemps sa chef-op, surtout pour les derniers films, notamment pour Conte d'été. Et elle m'expliquait que par contre, les tournages étaient très, très studieux. Donc ça se ressent même, je crois, à l'image. Et que voilà, et qu'après, il faisait la fête, mais sans Rohmer, le soir. Il faisait la fête, notamment avec Melville Poupeau, qui n'était pas le dernier. Déconner, paraît-il. Voilà, ce sont les anecdotes du 7e art. Ainsi s'achève le petit hommage à Éric Rohmer.
Voilà, on va passer à quelque chose d'un peu plus populaire, distrayant, disons. Donc Esther, un film de Jaume Colet-Serra, qui était sorti le 30 décembre 2009. En pleine vacances de Noël et qui était venu un petit peu contrebalancer la brouette de production familiale qui monopolise comme d'habitude nos écrans en cette période de l'année. Donc c'est le troisième film de Colet-Serra, déjà réalisateur en 2005 du remake de La Maison de Cire, un classique de 1953 des studios Warner avec Vincent Price. Et bon, Esther nous raconte l'histoire de Kate et John Coleman, donc parents de deux jeunes enfants qui, après une troisième grossesse, qui s'est malheureusement soldée par une fausse couche, décide d'adopter. Alors à l'orphelinat, il tombe amoureux d'une petite fille russe de 9 ans, au visage d'ange, Esther, qui est particulièrement bien élevée, qui est douée en peinture et qui a des allures de petite princesse. Donc les deux parents sont séduits par la grâce de cet enfant et ils décident de la ramener chez eux et de l'intégrer à leur petite famille. Rapidement, Esther et Max, la petite fille sourde et muette du couple, vont se lier d'amitié, ce que Daniel, le fils, ne va pas voir d'un très bon œil. Surtout qu'Esther va progressivement se révéler être une enfant très particulière. Donc très vite, l'orpheline commet des actes violents et ambigus qui vont mettre la puce à l'oreille de la jeune maman. Mais sa culpabilité après sa fausse couche et son passé d'alcoolique vont venir jeter le discrédit sur ce qu'elle pressent. Esther n'est peut-être pas la jolie petite princesse qu'elle semble être. Alors le film se construit donc autour du schéma classique de l'enfant monstre, donc un genre qui a connu ses heures de gloire dans la foulée de L'Exorciste de Friedkin ou de La Malédiction de Richard Donner, qui avait fait le succès aussi de nombreux films de fantômes japonais comme la trilogie Ring ou Dark Water de Hideo Nakata, et qui récemment était un peu revenu sur le devant de la scène avec le remake de Halloween par Rob Zombie et sa première partie mémorable qui se concentrait sur l'enfance de Michael Myers, ou encore avec le film The Children de Tom Shankland qui était passé inaperçu lors de sa sortie en salle malgré les bonnes critiques dont il avait fait l'objet. Alors en partant de ce prétexte pas vraiment original, eh bien Cole Serra joue à fond la carte du thriller balisé, recourant à une débauche de poncifs de l'épouvante que n'auraient pas renié certains réalisateurs de nanar, dont les noms ne méritent même pas d'être cités ici. Donc on a ainsi droit 3 ou 4 fois de suite au coup du miroir dans la salle de bain, 4 ou 5 fois de suite à la caméra subjective qui s'approche doucement dans le dos d'un personnage alors qu'il n'y a personne, et 5 ou 6 fois à la technique du bruit violent qui vient nous abîmer le palpitant pour pas grand-chose. Voilà, quant aux apparitions brutales d'Esther dans les encadrements de portes ou dans la chambre des enfants, je laisse le soin aux spécialistes de les compter. Bref, le traitement de l'angoisse n'est pas vraiment réussi, et en plus l'amateurisme du Perchman, qui a quand même laissé pendre son micro dans le cadre dans presque une séquence sur deux, ne vient pas faciliter l'immersion des spectateurs dans ce cauchemar signé Cole Serra. Alors à côté de ces problèmes flagrants auxquels on peut rajouter un premier acte qui a un peu de mal à trouver son rythme, des scènes qui se répètent sans vraiment renouveler l'intrigue et une durée globalement trop longue, le film dure 2 heures, dont à mon avis 20 bonnes minutes de trop pour être efficace. Et bien à côté de tous ces problèmes, le film recèle quand même de bons points dont il serait dommage de ne pas parler. Alors la première réussite du film réside dans son casting, qui regroupe Vera Farmiga et Peter Sarsgaard dans les rôles des parents, et Jimmy Bennett et Ariana Engineer dans ceux des enfants. Alors pour interpréter Esther, le réalisateur a fait appel à la jeune Isabelle Fuhrman, à peine plus âgée que son personnage, et donc Isabelle Fuhrman qui campe admirablement cette petite peste à deux visages. Donc elle est ravissante en petite fille modèle au sourire d'ange, et elle s'avère à côté de ça particulièrement inquiétante lorsqu'elle tombe le masque et qu'elle révèle sa vraie nature. Donc une performance à mon avis à saluer, qui révèle une comédienne à suivre. Et bon, à ses côtés, ses partenaires assurent eux aussi leur part avec talent. Les différents personnages doivent composer avec des problèmes qui sont rarement abordés aussi intelligemment dans le cinéma de genre, donc alcoolisme, sexualité et psychologie maternelle, qui sont traités avec pas mal de finesse. Et il y a également Vera Farmiga, donc la mère, qui s'offre un rôle de maman à la fois forte et fragile, et elle incarne donc ce personnage avec pas mal de brio. Ensuite, le choix de faire de Max une petite fille sourde et muette vient aussi apporter un petit peu d'originalité dans ce script, qui s'avère plutôt bien écrit dans son approche des personnages. Ensuite, un des intérêts du film réside dans les quelques fulgurances d'humour noir qui viennent témoigner d'une certaine distance de la part des scénaristes et du réalisateur face à leurs créatures monstrueuses. Donc la violence décomplexée d'Esther donne lieu à quelques scènes un peu trop cauchemardesques pour ne pas provoquer le rire et pour ne pas se demander plusieurs fois avec un air goguenard « Mais pourquoi est-elle si méchante ?» Voilà, donc d'autres points sont également à souligner, comme l'intérêt d'Esther pour la peinture, un intérêt qui permet vers la fin du film une jolie surprise, mais qui est annoncée dès le générique d'ouverture. Ensuite, il y a la neige qui tombe quasiment sans discontinuer dans le film et qui vient apporter une petite touche particulière à cette descente aux enfers. Et enfin, le twist final, qu'il serait criminel de ma part de vous divulguer, même si certains se douteront rapidement du secret que cache Esther, eh bien ce twist vient accélérer le dernier acte du film et le pousser vers l'hystérie, autant visuel que psychologique, pour mieux nous laisser prendre du recul et réenvisager tout le film avec cet éclairage de dernière minute. Voilà, donc au final, Esther, c'est rien de plus qu'un petit thriller des familles, comme on en découvre sans arrêt en vidéo. Le problème ici, c'est que le film de Colet Serra a bénéficié d'une sortie en salle et que payer 9 euros ou 10 euros pour assister à ce spectacle plutôt bien écrit et assez bien interprété, mais pas très original et assez vite oublié, eh bien, ça risque d'en énerver beaucoup qui se dépêcheront d'effacer de leurs esprits les quelques bonnes idées et trouvailles de cinéma qu'il y a dans le film pour le conspuer et pour l'oublier aussi vite.
Bon, bah du coup, voilà, c'est une perte de temps, donc prenez plutôt un bouquin plutôt que...
Voilà, attendez que ça passe sur M6 lors d'un jeudi de l'angoisse ou qu'il sorte en DVD pour pouvoir vous le louer.
Eh bien, à propos d'angoisse...
C'est d'autant dommage que La Maison de Cire a été plutôt un bon remake, quoi. C'était assez haletant, et puis voilà, il y avait ce travail fait sur cette maison qui fond, puisqu'elle était effectivement composée entièrement de cire, qui est vraiment très très intéressante, et puis c'était assez angoissant, c'était plutôt bien fichu, quoi. Donc c'est dommage qu'il n'ait pas confirmé son jet, quoi, de ce précédent film.
Oui, mais attention, il y a quand même des bonnes choses dans Esther. Dans l'ensemble, le film est trop long, ça c'est, je pense, le premier défaut que je dirais. Et bon, les comédiens sont tous excellents, enfin, il n'y a rien à dire dessus. Le scénario est classique, mais bon, il tient la route. C'est plus un film distrayant, voilà, qu'un grand thriller ou qu'un thriller particulièrement original. C'est un petit film de journée pluvieuse, voilà.
Donc oui, à propos d'angoisse, disais-je, on passe donc au deuxième volet de Rec.
Oui, alors il avait pourtant suggéré avec ce titre Rec non pas 2 mais élevé au carré. Rom Balwegoro et Paco Plaza livrent avec ce Rec au carré, que par commodité je vais quand même appeler Rec 2, non pas une redite de leur premier film sorti en 2008, mais bel et bien un nouveau film se démarquant du premier opus à bien des égards. Et sur ce point c'est tant mieux, car il est indéniable que du haut de ses 1h20, Rec le premier se suffisait amplement à lui-même et il aurait été vraiment navrant de constater avec un Rec 2 pompé sur le premier, qu'outre le fait de faire acte de fainéantise et d'autosatisfaction, les réalisateurs démentent par leur forfait le génie du cinéma espagnol fantastico-horrifique qu'ils clament représenter. Non, loin d'un The Descent 2, donc la deuxième partie, de ce vieux fumiste de John Harris, les deux réalisateurs espagnols n'ont pas misé sur une surenchère de ce qui avait fait la réussite du premier film, à savoir un film d'infecté, vécu à la première personne par le biais d'une caméra portée imposant au spectateur une narration subjective hautement anxiogène. Dans Rec, rappelez-vous, on se retrouvait astucieusement amené par le prétexte d'un reportage sur le travail de nuit des pompiers espagnols, catapulté aux côtés de la belle journaliste Angela, filmée par son caméraman, dans un immeuble austère suite à l'appel de détresse d'une vieille femme. Passé cette première partie introductive à l'aspect de faux documentaire, le film prenait la tournure du film d'angoisse lorsque la chute mortelle en arrière-plan d'un des pompiers monté aux étages supérieurs interrompait brutalement la discussion animée entre les équipes de secours et les occupants de l'immeuble regroupés au rez-de-chaussée de la cage d'escalier. Renseigné sur la nature dramatique de la situation, le spectateur se retrouvait dès lors happé par la tension et la peur de l'inconnu des personnages et contraint de monter avec eux les différents étages de la bâtisse pour découvrir en plein cadre les corps livides et sales d'entités maintenant complètement déshumanisées et hautement agressives. S'ensuivait la dernière partie, sorte de survival, où les captifs de l'immeuble maintenant mis en quarantaine par les autorités à l'extérieur, luttaient pour échapper à la horde d'infectés contagieux et découvraient par la même occasion l'origine de la contamination. Le génie de cette mise en scène consistait en la parfaite maîtrise de la caméra subjective pour immerger et stresser hautement le spectateur qui découvrait, avec un point de vue limité, donc d'autant plus réaliste et angoissant, l'état des lieux de l'immeuble en même temps que les protagonistes. L'originalité et la réussite du film tenaient aussi dans la forme du récit. Surfant sur la mode du film en temps réel, le genre Blair Witch ou Cloverfield, dans Rec, il était question de visionner l'enregistrement du film du caméraman, un peu comme si l'on se trouvait devant un moniteur de contrôle embarqué dans un fourgon, ou comme si l'on visionnait la cassette d'enregistrement retrouvée. On va ainsi voir le rythme du film se retrouver conditionné par le comportement du caméraman et les aléas de la technique malmenée. On aura ainsi des poses de noir correspondant au moment où le caméraman devra éteindre sa caméra, des plans immobiles lorsque ce dernier devra la poser pour porter secours à ses compagnons d'infortune, des passages sans son ou sans image, et enfin des pans de film en vision nocturne d'autant plus angoissants.
Rec 2 ne rompt pas avec ce style, mais poursuit et finit d'en exploiter le filon. Dans Rec 2, on se retrouve quelques instants après la disparition dans les ténèbres d'Angela. Une équipe de l'armée est envoyée dans les lieux afin d'escorter un scientifique du ministère de la Santé chargé de récolter des échantillons. Comme dans le premier opus, et à l'instar des soldats, dont l'un d'eux est chargé de filmer l'épopée, on ne sait rien de lui. On va ainsi être contraint de replonger dans l'enfer de l'immeuble. Mais là où l'effet de surprise du premier film ne peut plus marcher, les réalisateurs décident de prendre à contre-pied les éléments narratifs du précédent opus. Les rencontres avec les infectés s'avéreront toujours aussi stressantes, et la violence filmée est encore soignée, mais l'intérêt est ailleurs. Car le scientifique va bientôt se révéler être d'une autre faction, reprenant la piste de la dernière partie du premier volet de Rec, à savoir l'existence d'un lien entre le Vatican et la créature, l'agent infectieux de la maladie et la possession. Nul doute que le tandem de réalisateurs est louché du côté de l'exorcisme de Friedkin, une célèbre tirade du démon tirée du film suffit elle seule à le confirmer. Toujours est-il qu'après avoir brossé la figure du zombie avec Rec, les réalisateurs réalisent avec Rec 2 l'entrée en scène du démon, choisissant à l'inverse du premier opus où la piste scientifique, puisque virale, comme moyen d'explication était largement parcourue, d'arpenter, celle du paranormal et de l'ésotérisme. Et l'utilisation à ce propos de la technique comme d'une nouvelle source scénaristique, avec la capacité de la vision nocturne à révéler un passage entre réalité tangible et monde des ténèbres, atteste de la fertilité de l'imagination des deux réalisateurs. Petit bémol, toutefois, le découpage du film en trois parties, qui, contrairement au premier opus, où c'est également le cas, s'avère moins payant. Dans Rec 2, la caméra va changer à trois reprises de porteur, faisant entrer en scène un groupe de jeunes adolescents au milieu de film. Cette partie, s'il est indéniable qu'elle sert à la linéarité du film et à sa compréhension, bon, voilà, on va dire ça, apparaît en définitive donc comme un peu inutile. Donc voilà, pour ce Rec 2, moi je l'ai trouvé assez angoissant, même si voilà, le vecteur n'est pas du tout le même que celui du premier. C'est vraiment, ça marche plutôt bien. Alors par contre, c'est aussi le problème, c'est quand même une suite malgré tout, et voilà, on aura été largement habitué à la structure et à l'architecture, disons, de l'immeuble dans le premier opus, ce qui va amener quand même le fait d'évoluer à nouveau dans cet immeuble, un aspect un petit peu redondant au récit, donc on sera moins, je pense, globalement, enfin en tout cas c'était mon cas, séduit avec ce Rec 2 que par rapport au premier. Et malgré donc un petit clin d'œil donc à Aliens, hein, qu'on va pouvoir retrouver dans le film lorsqu'il sera question en fait de constater que l'écran va être divisé en plusieurs parties lorsque les militaires du début vont rentrer dans l'immeuble, donc ce qui correspond à une scène dont on avait parlé en plus avec Martin dans un précédent cinérama, ou dans Alien c'était également le cas. On est loin en fait quand même avec ce Rec 2 de la réussite qu'avait pu représenter Aliens par rapport à Alien. Voilà mon opinion sur Rec 2, qui reste malgré tout un film, je pense, à aller voir, d'autant plus qu'il va bientôt passer en version originale au Diago. Moi, je l'ai vu là au Multiplex, il était, d'ailleurs, je crois qu'il est projeté que là, peut-être au CGR aussi à 22h dans ces eaux-là, mais en VF. Et voilà, c'est sûr que c'est.
Le Diago, c'est annoncé quand
Bah,
la semaine prochaine.
Prochainement.
Voilà. Dans le prochain magazine, apparemment, ils en parlaient, donc voilà, ça sera. On sera au courant le week-end prochain.
Donc attendez un peu, puisque le film, en revanche, est sorti le 23 décembre.
C'est
ça, oui. Contrairement
à
ce qu'on a dit en début d'émission. On va faire une pause, c'est-à-dire qu'on va passer à une interview, celle de Ouni Lecomte, qui est une réalisatrice, c'est son premier long-métrage. Elle a réalisé Une vie toute neuve, qui est un film franco-coréen inspiré de son histoire. Elle était présente lundi au Diagonale pour une séance avec le public et on en a profité pour faire une petite interview.
Je m'appelle Ouni Lecomte et je viens d'écrire et de réaliser un premier film qui s'appelle Une vie toute neuve.
Alors c'est un premier film, effectivement, vous aviez déjà réalisé un court-métrage auparavant, donc là c'est un long-métrage qui a été tourné en Corée, parce que vous êtes d'origine coréenne, vous êtes né en Corée, donc on peut parler du sujet, vous allez le raconter, parce que ça a une résonance avec votre histoire.
C'est l'histoire d'une petite fille de 9 ans qui s'appelle Ginny, qui est coréenne, et son père va l'emmène dans un endroit qu'elle va découvrir, et en fait elle va découvrir que c'est un orphelinat, et elle va se rendre compte qu'il l'a abandonnée. Et Ginny va résister. D'abord, elle ne peut pas y croire. Et donc, elle va se raccrocher à l'idée que ce n'est pas vrai et que son père va revenir la chercher. Donc, elle refuse aussi d'être adoptée. Et c'est comment cette petite fille va apprendre à surmonter cette épreuve et peut-être finalement apprendre à l'accepter pour pouvoir justement vivre une vie toute neuve.
네가 진이구나, 이진이. 진이는 여기 수녀님이랑 좀 둘러보고 있을래?
Alors ça, c'est purement autobiographique. Vous vous êtes vraiment servi de votre propre histoire. Vous avez plaqué vos sentiments sur ce personnage-là.
Effectivement, je suis proche du personnage dans le sens où moi-même, j'ai été adoptée à l'âge de 9 ans et demi, 10 ans. Mais le film n'est pas une pure autobiographie dans le sens où le film ne retrace pas tout ce que j'ai vécu. Mais j'ai puisé dans mon expérience émotionnelle pour nourrir les émotions du personnage. Je ne saurais pas dire la frontière entre l'autobiographie et la fiction, mais c'est plutôt une fiction, parce que je pense qu'un spectateur qui voit ce film sans connaître ma propre histoire, il entre dans une histoire, dans l'histoire de cette Ginny. Ce qui me tenait surtout à cœur, c'est d'adopter le point de vue d'une enfant, de rester avec elle, dans son intériorité et avec tout ce qui peut manquer aussi au récit. On ne lui donne pas d'explication, elle ne connaît pas toutes les raisons qui entourent, elle ne comprend pas tout. Voilà, et ça va être un apprentissage.
Donc du coup, elle est arrachée effectivement à son père, vous ne l'expliquez pas, comme vous le dites. Et ensuite, il y a cet apprentissage avec les autres. Elle voit une amie, après, et forcément dans cet orphelinat, il y a des étrangers, vous montrez des Américains, qui viennent ensuite adopter des enfants. Donc il y a toujours une histoire de départ, finalement, il y a toujours un déchirement dans cet orphelinat.
Oui, c'est l'histoire de multiples départs et multiples séparations. Et finalement, chaque départ, chaque séparation va raviver la première séparation, la séparation originelle d'avec le père. Et c'est au-delà, je dirais, de l'histoire d'un abandon. J'avais l'impression que je pouvais exprimer quelque chose d'assez universel, quelque chose qu'on partage tous, à savoir que nos liens entre nous sont souvent éphémères et toujours, irréversiblement éphémères.
아빠가 여행 보내준다고 했단 말이에요.
아빠가 너한테 거짓말한 거야. 자, 한번 입어보자.
엄마 아빠 없는 애들만 있는 데잖아요.
C'était votre premier long métrage. Alors, on le voit tout de suite. Très peu de mouvements de caméra. Il y a des plans fixes, très simples. Tout ça est filmé très simplement, avec une image très belle, avec beaucoup de symbolisme, pas de pathos. Enfin, rien de larmoyant, en fait. Ça, c'était vraiment un parti pris de mise en scène.
Précisément par rapport aux mouvements de caméra. Étant dans le point de vue de cette petite fille, j'avais envie aussi de suivre ses propres mouvements et ses mouvements intérieurs, je dirais. Et cette fille qui s'obstine, qui est dans la résistance, finalement, c'est une sorte de comme un bloc de pierre qui est très figé. Et je me disais que les rares mouvements de caméra qu'on verrait, qu'on sentirait finalement, j'avais envie de les utiliser justement pour les moments où elle commence elle-même à faire un chemin, à se mélanger aux autres filles ou à accepter l'idée de renouer des liens, de nouer des liens avec les autres filles. Donc, je dirais que dans le travail de la caméra, c'est pour moi directement lié au mouvement intérieur de l'enfant. Et par rapport à la simplicité, oui, j'avais l'impression que ce récit, il y avait au cœur quelque chose comme une évidence. J'avais envie d'épurer, j'avais envie presque de dégraisser, comme on dit. Je n'avais pas l'impression qu'il en fallait beaucoup pour entrer dans l'émotion et que, au contraire, plus j'enlevais, plus je laisserais la place voilà, le spectateur, je me disais que le spectateur pouvait faire son propre chemin pour entrer dans ces émotions-là.
Et d'ailleurs, la manière dont vous montrez pour la première fois ce personnage de petite fille, Ginny, c'est Ginny, est très habile parce qu'on la voit surtout elle, alors on voit qu'elle est avec un adulte, en l'occurrence son père, mais son père on le voit de dos, on le voit même quand elle arrive à l'orphelinat, c'est pareil, son père, vous cadrez la jeune fille, donc son père étant plus grand, de toute façon on ne le voit pas. Enfin, il y a une manière plutôt habile de se concentrer quand même sur ce personnage féminin et d'occulter un peu le père.
Le parti pris était donc de se mettre à sa hauteur. Donc forcément, les corps des adultes, quelque part, ils sont coupés. Mais il y a une autre idée dans le fait de ne pas voir le père. Je me suis posé la question de comment mettre en scène justement ce personnage qui allait avoir une telle importance pendant tout le film, alors qu'on ne le voit très peu. Finalement, ce qu'on voit, c'est le bonheur de la petite fille à être auprès de son père, à voir une petite fille qui fait corps avec son père. On voit un corps morcelé, les bras, le dos du père, et ce contact physique très proche, intime presque, entre la petite fille et son père. On est de son point de vue. Effectivement, on voit tout l'attachement qu'elle a par rapport à lui. Et je me suis dit que c'était peut-être le meilleur moyen. Cacher le visage, finalement, ça allait créer un attachement encore plus fort, tout le mystère qu'il y a derrière ce lien.
Smile, smile.
어서 내려와. 고라니 못 내려와. 자, 문 열렸다.
예린, 아빠 우리
Alors la difficulté, c'est que vous ne parliez pas donc le coréen, tout a été tourné en Corée. Alors il y avait ses enfants quand même à diriger. Comment vous arriviez à trouver les scènes justes quand on ne connaît pas la langue, finalement? Comment vous sentiez que la prise était juste et qu'on pouvait passer à autre chose, à un autre plan?
Je crois qu'on n'a pas besoin de connaître une langue pour sentir s'ils sont sincères, s'ils sont justes dans ce qu'ils disent. C'est de la musique, en fait.
Boris est malade. Voilà, donc c'était Ounie Lecomte, la réalisatrice de Une vie toute neuve. Alors le film est sorti donc mercredi dernier. Il est projeté encore au Diagonal pendant une semaine au moins. Je pense que vous avez fait connaissance avec le sujet. Donc un peu autobiographique, donc des plans simples, comme il a été dit. Un rythme plutôt lent, mais pas trop lent. Enfin, c'est simplement un film qui se déguste plutôt bien. Et qui donc présente une histoire du point de vue de l'enfant. Et puis ces enfants sont charmants en plus. Les films sur les orphelinats, alors je sais qu'il y a les Espagnols qui travaillent énormément sur le sujet, mais ça donne pas du tout la même chose quand.
Bon, ça donne Esther. Voilà. Et les enfants sont pas du tout charmants.
Donc là, c'est complètement autre chose. Donc je le recommande, ce film. Vous passerez pas un mauvais moment et vous aurez pas forcément l'impression de perdre votre temps. On passe à toute autre chose, puisque c'est la terre de la folie.
Je ne suis pas quelqu'un de très normal. Je vis toujours un peu à côté de la réalité. On pourrait déterminer une sorte de pentagone de la folie, circonscrit entre Montclar, Rosens, Sault, Castellane, Quinçon, le haut plateau, avec son vent continu, pousse à la neurasthénie. Il peut même rendre fou, surtout à la fin de l'été. À Cruis, le mari tue sa femme et se suicide. À Saint-Étienne, le mari tue sa femme et se suicide. Les femmes sont souvent les premières victimes.
Le père de famille a tous les droits. Tous les droits. Et donc, il a le droit aussi de frapper, de battre, de commander et de tuer.
Il y a une sorte de relais dans la folie. On passe des gens du pays un peu attardés aux néo-ruraux, parisiens ou étrangers, qui créent ou attisent le drame.
Entre un morceau de saucisson, de jambon, morceau de pain.
Étranglé, il a pris la corde, il a continué à l'étrangler.
Et en 1999, Soleil Malnikage
d'un coup de carabine,
tue d'un coup de fusil la femme de son frère.
Et là, on s'est rendu compte que les membres avaient été sciés.
J'ai eu mon compte, j'en ai tué trois. Je suis content. J'ai pas tué trois personnes. J'en ai même tué aucune pour le moment. Et j'en suis fier.
Alors, on l'entend, le sujet est macabre, morbide, mais ce qu'on entend aussi avec la narration de Luc Moulet, c'est l'humour décalé pour traiter de ce sujet. Luc Moulet, auteur estampillé Nouvelle Vague, issu de la famille des cahiers du cinéma, comme Éric Rohmer, feu Éric Rohmer, qui a dû être son rédacteur en chef, est un réalisateur à la filmographie abondante, essentiellement des courts-métrages, comme le fameux Essai d'ouverture en 88, où il filme les différentes solutions pour ouvrir une bouteille de coca, tandis que la capsule résiste. Près de 40 films, dont La Terre de la Folie est le dernier. Alors le réalisateur fait un retour dans son pays natal, les Alpes du Sud, où semble-t-il l'arrière-petit-neveu du bisaïeul de sa trisaïeule avait tué un jour à coup de pioche le maire du village. Un point de départ comme un autre. Alors bien sûr, pour s'apercevoir qu'on est parent d'un meurtrier, il faut bien qu'on nous raconte l'histoire. Une fois qu'on a le récit, rien ne nous empêche de faire une enquête. Luc Moulet retourne donc sur les lieux du crime et s'aperçoit très vite qu'ils sont beaucoup à avoir des histoires à raconter à propos d'événements tragiques qui se seraient déroulés à l'intérieur d'un périmètre assez étroit, délimité par 5 ou 6 villages. Au-delà, il ne se passerait rien ou pas grand-chose. Alors pourquoi les crimes arrivent seulement dans cet espace? Est-ce dû à la couleur de la roche, au vent qui rend fou? Moulet analyse, questionne, propose une explication sur la terre de la folie. Le propos est humoristique, même s'il s'applique à rendre le documentaire un tantinet objectif. Il y a des récits, mais on ne sait jamais finalement s'ils sont véridiques ou totalement inventés.
Et ce pauvre Émile a eu la bonne idée d'aller demander à un voisin un vieux fusil qui était de la guerre de 70, et c'était des fusils qu'on bourrait par le canon. Donc, comme son père lui interdisait d'aller à la chasse, il l'a caché dans un buisson en face, de l'autre côté, à l'endroit où ils avaient leur potager, ça s'appelait la Gasparde. Donc, il l'avait caché dans le buisson et le lendemain, il y va et il le tire. Et en le tirant, il l'a tiré par le canon et le crochet, le... comment on appelle ça le... Bon, bref, pour tirer, c'est déclenché et la poudre est partie et ça lui a fait un trou à travers le corps puisque tous disaient qu'on passait pour passer le bras à travers son corps. Alors donc, il est tombé là-bas. Bon, les gens avaient entendu un coup de feu, mais quand tout le monde cherchait, ça n'avait pas... Et ma grand-mère revenait de Cédron avec la jardinière et le mulet. Et elle a vu quelque chose au milieu de la route. Et elle a trouvé son fils qui était dans une mare de sang, mort depuis un moment. Quoi. Alors pour elle, ça a été terrible parce qu'elle était fatiguée, amoindrie. C'était 19, ça faisait 3 mois que mon grand-père était revenu de la guerre. Et elle a eu un choc épouvantable et elle s'est mise à danser sur place. Elle sautait, c'est pour ça qu'on appelait la danse de Saint-Guy, et le nom officiel c'est la Corée, je crois, ou quelque chose qui s'y rapporte. Et elle avait tellement sauté qu'elle avait troué ses chaussures.
Elle avait troué ses chaussures, je vais terminer la phrase. Alors il y a évidemment une grande part de dérision dans ce documentaire bidonné, raconté avec sérieux. Pour ceux qui aiment l'exercice, ils seront ravis. Alors pour les autres qui préfèrent les enquêtes richement documentées aux essais documentaires, eh bien qu'ils passent leur chemin. Alors sans doute que le film prend son temps, mais au moins Moulet ne perd jamais le fil de son discours. Les personnages qui défilent devant la caméra se prêtent de bon cœur à l'exercice, on vient de l'entendre. Et dans le lot, on en trouve donc des truculents. En même temps, la folie qui transpire de ce documentaire n'a pas la même saveur que les 4 saison des Spigoules, notamment de Christian Philibert, qui racontait la vie d'un village du Var aux prises avec une bête monstrueuse, un véritable canular. Parce que chez Moulet, il n'y a pas de spectaculaire, il y a de la retenue, même dans l'humour. Et si on ne rit pas de bon cœur, forcément, c'est l'esprit qui découle du récit qui rend serein. Alors on ne se sent pas trahi, puisqu'il nous emmène tranquillement dans son univers. Voilà. Donc c'est La Terre de la Folie, ça sort aujourd'hui même, et c'est projeté évidemment au Diagonale Capitole, puisqu'il faut quand même un cinéma d'arrêt d'essai pour passer ce genre de documentaire, c'est évident. On continue ces cinéramas et c'est toi, Martin.
Oui, voilà, bon, on va passer des paysages de folie de Luc Moulet au Danemark. Alors, je vais vous parler de Just Another Love Story, donc, qui est le nouveau film du Danois Ole Bornedal, qui s'était fait remarquer en 1994 avec Le Veilleur de Nuit, un film dont il avait lui-même signé le remake hollywoodien du même nom avec Ewan McGregor, ce qui avait fait connaître du public international. Alors, avec son nouveau film, Bornedal nous raconte l'histoire de Jonas, un photographe médico-légal qui passe son temps sur des scènes de crime ou à la morgue. Alors, pas vraiment épanoui dans son travail, en même temps, qui le serait. Jonas est malgré tout assez heureux dans son couple et il aime ses deux enfants, jusqu'au jour où sa vie va croiser la trajectoire de Julia. Donc une trajectoire plutôt chaotique, puisque leur première rencontre va se produire suite à un terrible accident de la route qui laisse Julia dans le coma. Donc pour pouvoir obtenir des nouvelles de la jeune femme, Jonas se fait passer pour son petit ami auprès de la famille et va commencer à lier une étrange relation amoureuse avec la jeune femme que l'accident a rendue amnésique et quasiment aveugle. Alors si le film aurait facilement pu sombrer dans le mélo adultérin, Bornedal transforme progressivement son histoire en film noir au suspense soutenu. Donc petit à petit, les pièces du puzzle que constitue la vie de Julia avant l'accident se mettent en place, laissant apparaître une histoire d'amour meurtrière avec un ancien petit ami rencontré à Hanoï, laissant apparaître une sombre affaire de drogue, de triade vietnamienne et de trahison. Emporté par la vague de sentiments qu'il ressent pour Julia, Jonas va aller très loin dans l'usurpation d'identité, le mensonge venant peu à peu grignoter sa vie et le poussant à abandonner femme et enfant pour se consacrer entièrement à la convalescence de son nouvel amour. Alors la qualité principale de Just Another Love Story réside dans sa facture formelle, et en particulier dans sa photographie et dans son montage. Alors le film se construit comme une compilation de flashbacks, la première scène présentant l'agonie du narrateur sous une pluie battante, narrateur qui va se remémorer les événements qui l'ont mené à cette fâcheuse situation. Donc ce choix de narration, qui est assez classique, n'est pas seulement une facilité scénaristique, comme c'est souvent le cas au cinéma, parce qu'il va trouver des échos dans l'ensemble du long métrage avec des changements de ton incessants. Le réalisateur utilise plusieurs fois le montage alterné pour illustrer la perte de repères de son personnage. Des répliques qui appartiennent à une scène vont faire irruption dans une autre séquence, le passé va venir se superposer au présent, et à mesure que Jonas s'enfonce dans son imposture, il perd pied, et on arrive à ne plus vraiment savoir qui il est. Alors les enchaînements sont souvent très brutaux entre sa vie réelle et la vie de celui dont il a usurpé l'identité. Si son quotidien est traité dans des tons bleus, blafards et froids qui viennent souligner la banalité de son existence et l'ancrer géographiquement dans un Danemark pluvieux, les souvenirs qui, eux, sont liés au véritable petit ami de Julia font l'objet d'un traitement très différent, le grain de l'image et le flou venant renforcer la photographie ocre et ensoleillée des paysages asiatiques. Alors la musique signée Joachim Holbeck est elle aussi à saluer. Elle est assez minimaliste mais particulièrement efficace et les notes égrenées par une guitare qui semble infatigable, viennent illustrer à merveille cet emballement des événements, cette course en avant qui ne semble pas devoir s'arrêter. Donc malgré certaines facilités dans la partition, cette musique participe souvent grandement à l'émotion que l'on ressent devant les images magnifiquement composées par Dan Lostsen, le directeur de la photo. Alors quelques scènes sont particulièrement mémorables, comme celle assez tétanisante de l'accident. Alors on a la caméra qui reste en plan fixe et rapproché sur la conductrice, alors que la voiture enchaîne les tonneaux au ralenti. Les éclats de versicurite viennent flotter dans l'habitacle et donner à ces images une dimension onirique très particulière. Alors ça n'a pas grand-chose à voir, mais ce traitement original de l'accident m'a fait penser au film À l'intérieur de Maury et Bustillo, qui eux nous faisaient vivre aussi un crash, mais depuis l'intérieur du ventre de la conductrice qui était enceinte. Voilà une scène, voilà des traitements d'accidents de voiture qui sont assez particuliers. Alors la confrontation qui intervient aussi lors du climax final est aussi assez remarquable, non pas pour des raisons esthétiques, mais par son écriture, qui joue sur le mensonge, sur les sous-entendus et sur les regards entre les trois personnages. Et enfin, bon, certaines scènes font preuve d'un humour morbide qui est plutôt bienvenu, comme dans cette séquence où un des collègues légistes de Jonas lui explique, un cerveau humain à la main, où se situent les zones concernées par la relation amoureuse. Voilà, une petite scène qui allège l'ensemble, même si c'est de l'humour très noir. Voilà, en ce qui concerne les comédiens, alors aucune fausse note n'est à déplorer dans l'interprétation des rôles principaux ou secondaires. Dans l'ensemble, chaque personnage parvient rapidement à exister, à acquérir une épaisseur crédible. Donc les membres de la famille de Julia, les collègues de Jonas, tous arrivent à trouver leur place dans cette histoire qui parle finalement autant d'amour et de passion que des liens familiaux ou amicaux avec simplicité. Donc Anders Bertelsen, qui joue Jonas, campe avec beaucoup de talent son personnage ambigu et il s'amuse des différents masques avec lesquels il doit composer au sein même de l'histoire. Alors non, le film d'Olé Bornedal ne raconte pas juste une autre histoire d'amour, comme le suggère ironiquement son titre français. Il s'agit d'une histoire passionnelle, tragique, déprimante et hypnotique qui parvient à nous tenir en haleine jusqu'au retournement de situation finale plutôt bien trouvé, alors qu'on aurait pu s'attendre à un twist tiré par les cheveux. Alors si certains regretteront un classicisme presque hollywoodien, des coïncidences un peu trop énormes ou encore des baisses de régime dans le rythme du film, j'ai pour ma part trouvé ce film assez intéressant, plutôt riche et surtout très bien filmé. Donc ni complètement drame romantique, ni complètement film policier, Just Another Love Story est surtout un film aux accents lyriques sur l'identité, la passion et sur les rêves de changement qui nous taraudent tous sans que l'on parvienne à les concrétiser. Jonas, lui, les embrasse sans retenue jusqu'à se perdre complètement et perdre en même temps cette vie qu'il voulait plus romanesque et moins quotidienne. Donc un film à voir, à mon avis, un film que je vous conseille. Donc ça passe au Diagonal Capitole. C'est sorti mercredi dernier, ça va encore passer pendant plusieurs semaines.
On va peut-être en profiter pour parler de Salomon Kane puisqu'on a un petit moment. Tu voulais le détruire surtout.
Alors très très rapidement parce que j'ai rien du tout préparé sur ce film. Moi juste après le film de Bornedal, j'ai enchaîné en 5 minutes avec Salomon Kane. Donc un film complètement différent, c'est un film de dark fantasy. Une histoire qui avait été écrite par l'auteur de
Conan
le barbare, Robert E. Howard. Voilà, et Salomon Kane donc nous raconte l'histoire d'un ancien corsaire sanguinaire qui s'illustrait par ses actes de cruauté jusqu'au jour où le diable vient réclamer son âme. Ce qui ne lui plaît pas, il s'enfuit et il décide de consacrer sa vie à la paix. Il se réfugie dans un monastère jusqu'à ce que, par la force des choses, il va devoir reprendre les armes, sinon il n'y aurait pas de film. Donc voilà, Solomon Kane, c'est un film de fantasy pour ceux qui aiment les bastons, les gerbes de sang à la Zack Snyder et à la 300. Pas grand chose à sauver dans ce film, le casting est... On a un ersatz de Hugh Jackman dans le rôle de Solomon Kane, c'est James Purefoy qui a quasiment le même look que dans Van Helsing, dans le film de Stephen Sommers, qui fait à peu près la même chose finalement, c'est une sorte d'ersatz de Van Helsing. On a quand même Pete Postlethwaite qui joue là-dedans, donc un acteur assez intéressant. Il y a également le grand Max von Sydow qui a un petit rôle, mais rien de très notable. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Il y a une ou deux créatures donc fantastiques créées par Tatopoulos, donc un des grands noms des effets spéciaux américains, qui a signé entre autres les créatures de...
Underworld 3, je crois.
Il a même signé la réalisation d'Underworld 3, je crois qu'il l'a réalisé. Il s'était occupé des créatures deux premiers. Ouais. Le film avec Vin Diesel, là, le premier volet des Chroniques de Riddick, Pitch Black, il avait aussi signé le design de ces créatures qui pour le coup étaient plutôt intéressantes. Les créatures, on a l'impression de les avoir déjà vues dans 3 ou 4 films, voire dans des jeux vidéo style Dawn of War et compagnie. Salomon Kane, on était 3 dans la salle. Mmh. C'était
Il le mérite.
Ouais, c'était sympathique. Non, vous avez mieux à faire que d'aller voir ce film, peut-être en vidéo quand vous aurez fini de voir Van Helsing, quand vous aurez fini de voir La Ligne des Gentlemen Extraordinaires.
Ça me fait penser à Blood en termes de déception, ton film là.
Ouais, mais j'avais pas lu en même temps les romans de Robert Howard dont sont tirés le film. J'ai même pas vu Conan, je vous avouerai. On retrouve un peu cet esprit avec des héros un peu plus grands que nature, avec des situations aussi.
Avec une psychologie très très fine, j'imagine.
Oui, bien sûr, dans des sujets pointus, abordés avec une finesse sans nom. Solomon Kane, vous pouvez oublier que je vous en ai parlé.
On évoque maintenant les événements de la semaine, c'est ça ? Moi, je peux m'en charger.
Je t'en prie, vas-y.
Alors, il y en a au moins un que tu n'as sans doute pas. Ça s'appelle Vision et Food. C'est le premier épisode et ça se passe justement à l'épisode à Montpellier. Alors, Vision et Food est une proposition environnementale visant à stimuler les sens, la vue, avec la projection de courts et moyens métrages, Louis, avec un mix musical assuré sur les projections, et le goût via la table dressée, forcément conviviale. Vision et Food Incorporation, je crois que ça veut dire le Inc. Reste avant toute chose un théâtre d'impression. Voilà comment ils vendent la chose. chose. Alors ça commence à 20h, il vous accueille. À 20h30, c'est la diffusion du film Blue Holocaust. Le film est un montage audio et vidéo de prise effectuée sur un centre commercial abandonné avec une bande son, avec en bande son l'album éponyme de Volvotrax. Voilà. À 21h, c'est l'installation à table. À 21h15, c'est un cinémix sur le film La Villa Santo Sospir, un film de 52 de Jean Cocteau. Voilà, c'est qui est en 16 mm. 21h55, eh bien, vous pourrez aller fumer, semble-t-il. 22h05, vous revenez dans la salle, puis il y aura un nouveau cinémix sur le film War Games, quand même. Film de 62, en noir et blanc, qui voit un groupe d'enfants s'amuser sur la plage, et donc c'est un remake de Sa Majesté les Mouches. Et puis après, ça se termine la soirée avec un mix musical de Alex Terror. Donc ça se passe à l'épisode, c'est 25 rue Saint-Hippolyte, dans le quartier des Arceaux. La formule dîner plus ciné plus mix, il vous en coûtera 20€. Tu veux parler d'une affaire de nègres, notamment, de Oswald de Watt?
Voilà, c'est demain à 18h, c'est au Diagonale Capitole, donc projection de ce documentaire de Oswald de Watt qui sera suivi d'une conférence à l'EMLK, qui se trouve boulevard Louis Blanc, donc pas très loin des studios de Divergence FM. Voilà, c'est une affaire de nègre, c'est demain à 18h.
C'est un film qui traite de la milice gouvernementale censée lutter contre le banditisme au Cameroun.
Voilà. Voilà. Et donc la séance sera présentée par Odile Biyidi Awala, donc présidente de Survie LR, et suivie de la conférence dont je vous ai parlé. Ce sera au boulevard Louis Blanc.
Ensuite, donc ça c'est demain à 18h, mardi 19 janvier à 20h, c'est Mouloud Feraoun, je crois que c'est le dernier film de Ali Mouzaoui, qui était déjà venu l'an dernier pour eh bien, le regard sur le cinéma algérien, qui va débuter, enfin qui se passe entre Lunel, Montpellier et d'autres villes. Donc voilà, ce sera en présence du réalisateur, normalement mardi 19, donc à 20h. Ainsi s'achèvent les événements. Et, non, à moins que t'aies.
Non, du tout. Non, je voulais juste signaler quelques sorties. Il y a le dernier film.
Invictus,
dernier film de Clint Eastwood qui sort aujourd'hui. Voilà, que vous allez pouvoir découvrir un peu partout, en VO, au Diagonal, entre autres, en VF, ailleurs. Il y a le film Tsar, également, un film russe. Alors là, par contre, le temps que je retrouve le nom du réalisateur, mais c'est un film qui a l'air assez intéressant. Un film en costume, une grande épopée.
Une sorte de reconstitution, oui.
Voilà. Ça peut valoir le coup. Il y a La Terre de la Folie, dont on a parlé. Et puis tous les films qui sortent au Gaumont Multiplex et au CGR de Latte, voilà, des films de dark fantasy avec des monstres que je vous conseille fortement.
Voilà, Cinérama s'achève, on se retrouve la semaine prochaine à partir de 13h30 sur Divergence FM. Et à la fin du générique, on pourra écouter un extrait de « Comment je me suis disputé ma vie sexuelle » d'Arnaud Desplechin. Et puis on remercie Julia dans la technique.
Dépression là. Regarde-moi, compare avec Nathan ou Bob. Je deviens raté. Je rate ma vie. Mais si je rate ma vie, mais je vais t'en vouloir, Esther. C'est normal. Putain, j'aurais bien voulu qu'on la gagne ensemble, mais on la perd ensemble. Tu vois pas? J'ai plus de force. Tu peux pas m'aider.
T'es amoureux d'une autre fille?
Cinérama.
Oui.
Sur Divergence FM.